Chapitre 5. La joie de monsieur et madame Villemur fut si grande de retrouver Annie, libre, que le premier mois, ils ne s'aperçurent pas de la présence de Jean-Noël. Madame Ettlinger ne l'avait d'ailleurs pas imposé comme s'il avait été son fils. Quand son père la priait, par exemple, de faire une observation au jeune homme, elle obéissait sans être le moins du monde froissée. Elle tenait à ce que ses parents comprissent qu'elle ne serait ennuyeuse ni avec sa douleur, ni avec ce qui lui restait de son mariage, ce qui n'impliquait pas qu'elle regrettait quoi que ce fût. Quant à Jean-Noël, qui était plein de fierté d'être mêlé à une vie aussi luxueuse, il avait adopté l'attitude d'un fils qui sait que sa mère a souffert de l'injustice de sa famille et qui, comme elle, pardonne, mais en conservant, lui, une nuance de rancune. Un soir, M. Villemur lui demanda, sans cesser de lire son journal, c'est-à-dire, comme si cette question n'avait pas d'importance, s'il avait de la famille à Paris. Annie, dès le début, avait posé certaines conditions à son installation avenue de Malakoff. La principale était qu'il ne fût sous aucun prétexte question du passé. En même temps, elle avait recommandé à son beau-fils de ne jamais parler ni d'elle, ni de Jean Melchior, ni de Madame Mercier. Aussi évita-t-il de répondre. M. Villemur insista, une simple curiosité, dit-il, de sorte que Jean-Noël fut obligé de faire appel à ses souvenirs. Il avait un oncle, une tante, croyait-il. « Mais vous n'avez pas une mère ?» demanda M. Villemur. « Je ne sais pas, » répondit Jean-Noël en rougissant. Cette réponse qu'un enfant n'eût pas faite amusa beaucoup M. Villemur. « Comment, vous ne savez pas si vous avez une mère ?» Jean-Noël, plus rouge encore, s'expliqua d'une manière confuse. Il avait une mère, mais il ne la connaissait pas. Quand il revit Annie, il se garda bien de lui rapporter cette conversation, conscient qu'il était d'avoir été ridicule. Sur ces entrefaites, la sœur aînée de Madame Villemur, Mademoiselle Yvonne de Fallet, qui n'avait pas revu sa nièce depuis que celle-ci s'était mariée, passa quelques jours à Paris. C'était une petite femme, curieuse, méchante, aux yeux de qui Annie était tout simplement un monstre. « Quel beau garçon !» dit-elle lorsque Jean-Noël lui fut présenté. Puis, profitant de ce que Madame Ettlinger s'était éloignée, elle lui posa une foule de questions. Cette fois, Jean-Noël, que Mademoiselle de Fallet intimidait moins que M. Villemur, les éluda sans se troubler. D'autant plus fier de lui que la veille, il avait peu été, il répéta à sa belle-mère l'interrogatoire que lui avait fait subir Mademoiselle de Fallet. Annie s'en plaignit à son père. « Tante Yvonne, lui dit-elle, est trop curieuse. Tu sais, papa, ce que je t'ai dit quand je suis arrivée. » Elle rappela à M. Villemur qu'elle l'avait supplié de veiller à ce qu'on ne s'occupât pas d'elle et qu'il lui avait promis. Elle n'était plus une jeune fille. Elle avait 33 ans, elle venait de perdre son mari, elle souffrait, elle n'avait aucune honte de le dire. Elle ne cacherait jamais qu'elle avait aimé Jean Melchior. Elle ne demandait que deux choses, l'oubli et la tranquillité. M. Villemur s'efforça de la calmer. Il lui promit même de faire une observation à sa belle-sœur. Mais, de ce jour, il se méfia de Jean-Noël. Celui-ci était pourtant bien inoffensif. Sa seule ambition était d'être traité comme un fils d'Annie, sa seule crainte, comme dans les années qu'il avait passées à Nice, de voir paraître sa mère. C'est pourquoi, lorsque, quelques jours plus tard, il reconnut sur une lettre qui lui était adressée l'écriture enfantine de Madame Mercier, il se mit à trembler. Celle-ci lui annonçait qu'elle était arrivée à Paris. Elle n'était pas encore remise de la mort de Jean Melchior. Elle avait besoin de réconfort. Elle priait son fils de venir la voir. Elle s'étonnait qu'avant de quitter Nice, il ne fût pas allé à Menton. Si elle ne lui avait pas écrit, il ne lui eût sans doute jamais donné signe d'existence. La première pensée de Jean-Noël fut d'avertir sa belle-mère. À la réflexion, il n'en fit rien. Au seul nom de Madame Mercier, Annie perdait la tête. La nuit, il dormit mal. Que devait-il faire? S'il n'allait pas chez sa mère, ce serait elle qui viendrait. Cette perspective lui donnait des bouffées de chaleur. S'il y allait, il ne pouvait le faire qu'en cachette. La solution la plus sage lui parut de montrer cette lettre et de faire ce qu'on lui dirait. Mais, en la relisant, son attention fut frappée par ce passage. « Je ne pense pas que c'est l'intrigante qui t'a empêché de venir me voir à Menton. En tous les cas, je le saurai. Si cela est, vous le regretterez tous les deux. » Non, il ne pouvait montrer cette lettre. Le mieux était qu'il se rendît à l'adresse que lui avait donnée Madame Mercier. Dans sa 18e année, on n'est plus un enfant. Il saurait parler à sa mère. Il lui promettrait de l'aider plus tard. Puisque son père n'était plus, il le remplacerait. Il avait le désir de voir retomber sur lui toutes les responsabilités de M. Ettlinger. Ne s'était-il pas déjà imaginé, au lendemain de la mort de Jean Melchior, que ce désir allait se réaliser? Quand il se trouva en présence de sa mère, la première parole de celle-ci fut pour lui demander si Annie était au courant de sa visite. Il répondit négativement. « Tu as donc honte de ta mère ? » s'écria-t-elle. Puis elle eut une crise de larmes. Ce n'était pas avec la somme qu'on lui avait remise qu'Émile et elle pouvaient vivre. On avait certainement fait mourir M. Ettlinger à l'étranger exprès. Il était facile à présent de dire qu'il n'avait laissé aucun testament. « Si tu es un bon fils, continua-t-elle, tu exigeras qu'on me donne ce qui m'est dû. » Jean-Noël répondit qu'il ne demandait qu'à le faire, mais que c'était, selon lui, maladroit, Annie n'aimant pas qu'on lui indiquât son devoir. En laissant croire à sa mère qu'il était de cœur avec elle, il se rendait bien compte qu'il avait une attitude équivoque. « Si tu ne l'exiges pas, c'est moi qui l'exigerai. » Sur cette menace, il partit. Une fois seul, il s'en voulut de s'être mis dans un mauvais pas. Finalement, il se décida à parler à Annie, mais au lieu de lui dire la vérité, il crut habile de présenter l'entrevue dont il sortait comme un incident comique. « Elle est à Paris ?» s'exclama Madame Ettlinger. Une semaine plus tôt, elle avait reçu une longue lettre de M. Saglioni. Il avait tout réglé. Cependant, il mettait Annie en garde contre Madame Mercier. Lorsqu'il avait remis à cette femme la somme de 5 000 francs dont Madame Ettlinger l'avait crédité à cet effet, elle s'était écriée « C'est 100 000 francs qu'on me doit. Quand on vole le mari d'une femme, on doit réparer. Je ne me laisserai pas faire. Vous pouvez le dire. » Il ne fallait pas prendre au sérieux ces menaces. Ernestine Mercier n'avait aucun recours contre Madame Ettlinger. « Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle viendrait ici ?» demanda Annie. « Il n'aurait plus manqué que cela, » répondit Jean-Noël en riant. Madame Ettlinger fut loin de partager l'optimisme de son beau-fils, optimisme qui, le lendemain, lorsqu'elle reçut une lettre dans laquelle Madame Mercier se plaignait de 1 000 choses, entre autres de ce que, non contente de lui avoir pris son mari, Annie empêchait Jean-Noël de la voir, lui parut n'avoir d'autre raison d'être que celle de masquer une complicité évidente. Elle appela son beau-fils, lui lut la lettre. Il en ressortait que le pauvre garçon était séquestré, qu'il soupirait après sa mère. « Ce n'est pas vrai !» s'écria Jean-Noël. Annie, sur qui la sincérité ne faisait aucun effet, ne voulut pas l'écouter. « Si tu as des reproches à me faire, dit-elle, fais-les-moi, mais je t'en supplie, épargne-moi l'avenir des lettres comme celle-ci. Tu sais bien, mon cher enfant, que j'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour que tu sois heureux. » Elle ajouta qu'elle admettait très bien qu'il eut des aspirations dont il ne voulait pas lui faire part. S'il croyait qu'une fois libre, il lui serait plus facile de les satisfaire, elle ne s'opposait pas à ce qu'il quittât l'avenue de Malakoff. Mais s'il restait, il devait se conduire de manière qu'on n'eût pas à rougir de lui. Elle s'était déjà mise pour lui dans une situation délicate. « Si mon père ne me fait aucune observation à ton sujet, ne crois pas que pour cela, il se réjouisse de ta présence chez lui. » M. Villemur, en effet, ne cachait pas son impatience de voir arriver son fils Henri en permission. Celui-ci avait pour ami un Bernois qui était directeur d'un laboratoire situé dans le quartier de la Bourse du Commerce. Cet ami manquait de personnel et M. Villemur avait pensé qu'en attendant que Jean-Noël fût appelé sous les drapeaux, puisqu'il ne parlait pas de s'engager, il trouverait chez lui un emploi. Mais rien ne pouvait être fait avant le retour d'Henri. Quelques jours plus tard, Madame Villemur eut avec sa fille une grande conversation. On peut s'étonner qu'elle eût attendu 2 mois pour cela. La raison en était que cette vieille dame capricieuse, par esprit de contradiction, faisait toujours le contraire de ce qu'on attendait d'elle. Au retour de sa fille, c'est-à-dire au moment où elle eut dû ne pouvoir contenir sa joie, elle n'avait montré qu'indifférence, et à présent que la vie avait repris son cours, elle donnait depuis une semaine des signes d'émotion. « Je ne sais pas, dit-elle à Annie, si tu agis comme tu devrais le faire. Ce jeune homme pour lequel, comme tu me l'as dit, ton mari avait tant d'amour, ne crois-tu pas qu'il soit en train de prendre de mauvaises habitudes ? Je sais qu'il va être bientôt soldat, mais ne devrait-il pas travailler en attendant ? Il aura certainement à gagner sa vie lorsque la guerre sera finie. Si, dès aujourd'hui, il entrait dans une banque, par exemple, ou dans une maison de commerce, il apprendrait un métier et se ferait des relations qui lui seraient utiles plus tard. » Madame Ettlinger répondit qu'elle était tellement de cet avis que son père et elle attendaient justement le retour d'Henri pour faire des démarches. « Comment Henri doit venir en permission ?» s'écria la vieille dame. Annie se souvint alors de l'interdiction que lui avait faite son père de parler de cette permission, Madame Villemur étant convaincue, depuis que Bertrand avait été grièvement blessé le jour même qu'il partait en permission, que le même sort était réservé à son autre fils. Le soir même, Madame Villemur demandait à son mari comment il se faisait qu'on lui avait caché que Henri devait venir en permission. Lorsqu'il eut ramené le calme dans l'esprit de sa femme, M. Villemur prit Annie à part. « Je t'avais prié, lui dit-il, de ne pas parler d'Henri. Comment se fait-il que tu n'aies pas tenu compte de ma prière ?» Pour excuser un pareil oubli, Madame Ettlinger raconta ce qu'elle savait de la visite qu'avait faite Jean-Noël à sa mère. Puis, elle montra la lettre insolente que lui avait envoyée Madame Mercier. M. Villemur pâlit de colère. « C'est inadmissible, dit-il. Si ce garçon aime mieux sa mère, ce qui est son droit, j'ajouterai même son devoir, il n'a qu'à aller la retrouver. Personne ne l'en empêche, au contraire. » Mais Annie, si elle faisait preuve d'indifférence à l'égard de son beau-fils, ne s'en croyait pas moins tenue, en souvenir de son mari, à lui servir de mère. Elle demanda à son père d'avoir de l'indulgence pour un jeune homme qui, bientôt, irait se battre. M. Villemur s'en prit alors à sa fille. Le soir même, il fit venir Jean-Noël dans son cabinet. « Vous êtes à un âge, à présent, lui dit-il, où on peut vous parler comme à un homme. Vous n'ignorez pas dans quelle situation se trouve ma fille vis-à-vis de Madame Mercier. Si vous croyez que votre place est plutôt auprès de votre mère, ce qui, je m'empresse de vous le dire, serait tout à fait naturel, dites-le. Ma fille a suffisamment souffert, par sa faute d'ailleurs, pour qu'aujourd'hui on la laisse en paix. » Dans son désir de plaire, Jean-Noël répondit qu'il reconnaissait ses torts. S'il avait été voir sa mère, c'était parce qu'il ne s'était pas rendu compte des conséquences qui découleraient de cette visite. Puis, parce qu'il crut décerner chez son interlocuteur une certaine animosité pour Annie, il ajouta que celle-ci n'était pour rien dans ce qui était arrivé. « Tu as un défenseur en ton jeune protégé, » dit un instant plus tard M. Villemur à sa fille. Le ton ironique de son père la blessa. Ce fut avec tant de dureté qu'elle demanda alors à Jean-Noël ce qu'il avait bien pu dire à M. Villemur que le jeune homme perdit contenance. Il se mit à pleurer. Personne ne l'aimait. Tout ce qu'il faisait se retournait contre lui. Impassible, Mme Ettlinger le regardait. « Voyons, Jean-Noël, dit-elle finalement, en s'approchant de lui et en lui posant une main sur l'épaule, ce qui le fit pleurer davantage, sois fort !»